France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. La culture est un bien commun qui contribue à donner à chacun les clés de l'émancipation. Cette citation est en préambule de la présentation du MEMO, lieu de fabrique artistique qui intervient à Nancy et à Maxéville sur la base des arts de la rue et des arts du cirque. Si cet espace de grande qualité est récent, il repose sur un festival artistique un peu plus ancien et particulier, ne serait-ce que pour sa durée d'un mois, le festival Michto. Explication avec Eva Piotrowski. Nous serons en Île-de-France dans la seconde partie pour vous présenter une association d'aide à la santé mentale remarquable. Elle s'appelle Les Ailes Déployées. Elle accompagne les personnes concernées non seulement vers un mieux vivre, mais aussi vers leur insertion professionnelle.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Eva Piotrowski, bonjour.
Bonjour.
On parle du MEMO avec vous, un lieu de fabrique artistique. Alors, c'est assez récent, mais on va expliquer, parce que le MEMO, c'est le prolongement d'un festival qui existe depuis plusieurs années, le festival Michto.
Oui, exactement. C'est vrai que le festival est presque plus connu du public. En même temps, on a presque 10-12 000 personnes qui se déplacent au mois d'octobre. Alors forcément, ça fait du monde. Et ce festival s'est installé sur un lieu qui a été trouvé, un peu laissé pour compte dans la ville, on va dire, comme pas mal de friches qui encore existent aujourd'hui.
Oui.
Et puis quand on s'est installé avec ce festival qui ne dure finalement qu'un mois dans l'année, ce qui est déjà pas mal, mais... Et puis qu'on a eu ce lieu-là et qu'on l'a investi, on s'est dit, ben, il faut prolonger cette dynamique-là. On a tout un collectif qui s'active sur le festival et qui cherche aussi un outil de travail. Alors c'est comme ça qu'on a développé le MEMO et qu'on l'a appelé lieu de fabrique artistique.
Alors le MEMO, évidemment, prévoit d'être, par rapport au festival, d'être permanent avec ce lieu de fabrique artistique. Comme souvent dans les lieux, on accueille des compagnies en résidence. C'est le cas au MEMO.
Oui, tout à fait. Le lieu est permanent, en fait. On a 3 salariés, d'ailleurs, qui travaillent toute l'année. Il y a beaucoup les salariés permanents. On a beaucoup d'intermittents aussi qui travaillent. C'est vraiment un outil qui est au service de tout un collectif. Quand je dis un collectif, c'est une centaine de personnes quand même qui le construisent et du coup qui peuvent aussi en profiter, s'appuyer dessus en fait pour faire leur travail. Et effectivement du coup cette compagnie, il y en a qui sont très locales, dont c'est presque la maison en fait en quelque sorte. Et puis chaque année on accueille une douzaine de compagnies aussi en résidence de passage on peut dire en fait,
ouais.
Qui viennent pour poser leurs valises et travailler une semaine, 15 jours, 3 semaines parfois occasionnellement pour travailler sur leur création en cours. Et puis sinon le MEMO c'est aussi des spectacles qui joue, parce qu'on s'est rendu compte que Michto c'est bien, mais on avait envie de montrer des choses au public en dehors aussi de ce mois d'octobre. Donc à peu près une fois par mois, on a une équipe qui s'installe aussi sous le chapiteau ou en extérieur et qui propose un spectacle terminé pour le coup. Et puis ce qui fait entrer le public le plus souvent maintenant, c'est l'école de cirque qui s'est installée elle il y a peu de temps finalement, il y a 2 ans, c'est la toute dernière arrivée. C'est tous les circassiens de l'équipe qui avaient envie d'être aussi dans la transmission, d'aller plus loin et plus régulièrement. Et donc maintenant, on a chaque semaine des enfants, des ados, des adultes qui viennent bosser. Alors au milieu de ces résidences, au milieu de ces programmations, donc ça c'est vraiment très chouette en fait. C'est ce qui donne vraiment la coloration au lieu, c'est ces croisements. Alors un peu épiques certains jours, parce qu'on a des fois beaucoup de monde en même temps. Et puis parfois qui donne aussi pas mal de magie quoi, parce que voilà, on a des enfants qui passent à côté de la compagnie Titanos qui construit ses machines de feu et qui voilà se projettent aussi dans au-delà de son simple cours de cirque. Enfin, ça fait des chouettes choses.
J'ai vu des vidéos d'enfants qui travaillaient au trapèze, c'est sous chapiteau, on est dans des conditions absolument professionnelles.
Oui, c'est vrai que on est heureux parce que cette école du cirque, ça fait longtemps qu'on y pense et on avait envie vraiment que dans le coin on puisse, parce que nous on a fait du cirque les uns les autres, pour certains on a monté des compagnies, mais on a dû apprendre soit tout seul, soit partir loin pour faire des écoles. Et on avait envie que dans le secteur, on ait une vraie proposition digne d'une belle école. Et on a de la chance qu'on a pas mal d'artistes autour de nous. Et là, notamment, effectivement, le trapèze volant, c'est une des artistes de l'équipe qui a une structure de trapèze volant. Et une fois tous les 2 mois, à peu près, on propose une semaine aérienne et on monte ce trapèze dans le chapiteau. Et voilà, on accueille des novices qui ont envie de faire juste un baptême. Et puis, tous les élèves de l'école de cirque peuvent y passer aussi. On a une belle installation.
Ah oui, c'est bien.
Et ça, c'est chouette.
Pour l'instant, on peut vous trouver plus à Maxéville ou plus à Nancy ?
On est plus à Maxéville. On est sur un site qui est vraiment entre les deux communes. Et c'est là qu'on est actif toute l'année.
Mais vous cherchez un lieu définitif pour le MEMO ?
On est sur un lieu sur lequel on s'est beaucoup investi. et un lieu qui était un terrain en friche au départ, les anciens terrains de sport de l'école normale. Et puis on a trouvé cet espace, on s'y est investi, on a fait avec en accord avec la collectivité qui détient ce lieu, c'est le conseil départemental 54. Et puis voilà, on a construit un chapiteau en bois, on y installe aussi une baraque foraine dans laquelle on peut délocaliser des cours, on a un grand espace bar. Et puis ce bâtiment, le gymnase, c'est notre camp de base, c'est l'atelier de scénographie, c'est les bureaux, c'est l'endroit où finalement on peut travailler la base, quoi. Et effectivement, là, ce bâtiment doit disparaître, la collectivité souhaite le détruire. Et actuellement, on cherche des solutions. C'est pas simple. On cherche des solutions pour pouvoir continuer de travailler dans des conditions qui soient au moins aussi bonnes que celles qu'on a aujourd'hui, qu'on a construites de nos mains, hein, toutes. Mais... Oui. Et voilà, on est un peu dans une impasse. On cherche des solutions. Se délocaliser complètement, ça serait bien dommage parce qu'on a beaucoup travaillé dans le quartier et que on y a créé des... Enfin, il y a plein d'histoires qui s'y sont créées et on a envie de les poursuivre.
Mais vu le descriptif, vous avez besoin d'un espace très grand.
Oui, c'est vrai. Quand on s'étend un petit peu, ce bâtiment qu'on doit perdre théoriquement d'ici peu, il fait 600 mètres carrés. Et c'est notre seul bâtiment en dur. Mmh. C'est le seul sur lequel on a un toit sur la tête. Le chapiteau est un bâtiment bien solide, mais voilà, on a des problématiques de chauffage, comme toutes les personnes qui travaillent sous chapiteau. On vit les saisons pleinement, au même mot.
Oui. Bon, en ce moment, elle s'annonce plutôt bonne et on entend les oiseaux autour de vous, c'est très joli.
C'est
le site, c'est le-memo.com. Merci Eva.
Merci à vous.
Bon courage et bonne suite.
France Inter, carnet de campagne.
Michel, dans un courrier, nous invite à nous pencher sur le cas d'une entreprise d'héliciculture, d'élevage des escargots, qui s'y consacre depuis de nombreuses années. Elle s'appelle Elinov. Le siège est en Vendée. Et Elinov innove. Sa proposition aux éleveurs d'escargots est en effet une bonne réponse aux aléas du réchauffement climatique qui atteint en profondeur la profession. L'invention s'appelle hélicivoltaïsme. Elle est une parfaite complémentarité de l'héliciculture et de l'énergie solaire. L'idée est de monter des parcs d'élevage extérieur sous des structures photovoltaïques qui produisent une électricité propre. Les avantages des abris sont qu'ils protègent des oiseaux, des insectes et des orages violents. Cette méthode permet aussi d'optimiser les conditions de production. La photosynthèse est maintenue pour la levée et le maintien correct du couvert végétal. La chaleur et la lumière sont elles aussi garanties pour la croissance des escargots et les amplitudes thermiques sont de fait considérablement réduites. Il faut savoir que les conditions idéales, j'ai découvert ça en même temps que vous, hein, peut-être, pour la croissance des escargots sont des plages de température de 17 à 25 degrés avec une hygrométrie autour de 80%. Des conditions évidemment difficilement atteignables au cours de l'année et tout au long de l'année. Pour réaliser ces abris de grande dimension, Elinov a fait appel à deux entreprises française spécialisée dans les solutions photovoltaïques, Mécosan en Haute-Garonne et Solangy dans le Maine-et-Loire. Le site c'est elinov.com. Olivier Calais, bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous êtes directeur général des Ailes Déployées. Alors les Ailes Déployées, c'est une association dans ce terme et dans ce nom assez récent, 2019, mais qui est le prolongement de la Société Parisienne d'Aide à la Santé Mentale, SPASME, c'était bien trouvé, créée par le docteur Bernard Jolivet en 1959.
Oui, c'est exact. Voilà, la Société Parisienne d'Aide à la Santé Mentale, créée, comme vous le dites, en 59 par le docteur Bernard Jolivet. Il avait une idée qui était de faire sortir des murs de l'hôpital des personnes qui avaient plus de raison d'y être. Si ce n'est qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de solution. Et donc, il est sorti en se disant, on peut faire autrement. Il a commencé donc par créer une unité, deux, trois, etc. Il a convaincu d'ailleurs pas mal de professionnels à l'époque de le suivre. Et puis surtout, on peut dire les politiques aussi, finalement, d'aller vers la cité.
Quand vous parlez, Olivier, des personnes qui n'avaient plus de raison d'être dans un institut psychiatrique, ça veut dire que pendant très longtemps, on s'est pas du tout préoccupé de ces personnes qui pouvaient reprendre le cours d'une vie normale.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'était des personnes qui, finalement, étaient à l'hôpital parce qu'il n'y avait pas de solution à l'extérieur, qui étaient laissées un peu là par facilité, on peut dire, par le système hospitalier qui existait en tant que tel, donc par le fait même d'exister, proposer finalement des solutions, mais on peut qualifier d'asilaire. Et finalement, la cité, elle est en capacité d'accueillir ces personnes et d'être contenante pour ces personnes bien mieux qu'un hôpital.
Ouais, elle a la capacité, est-ce qu'elle a la volonté ?
Alors la volonté, oui, on peut penser quand même que la volonté est liée. Je crois que la cité, c'est vous, c'est moi. Il y a beaucoup de questions qui sont sur la sécurisation, sur être en réassurance, on peut dire. Donc le travail des professionnels, finalement, c'est aussi ça, c'est de réassurer le citoyen qu'on est, vous, moi, que finalement, tout ça, c'est presque normal. On peut vivre avec.
Alors, il ne s'agit pas uniquement de sortir de l'hôpital psychiatrique, il s'agit aussi, selon le terme très souvent utilisé ici, d'accompagner ces personnes et les accompagner vers l'emploi et vers un avenir professionnel.
Ah ben, absolument. Donc, l'idée, c'est on ne sort pas pour sortir, mais on sort finalement pour faire tout un travail aussi de réinsertion professionnelle, de réinsertion sociale, de réinsertion familiale. Et donc, le travail que nous proposons, finalement, c'est d'aller justement sur cette dimension-là et d'accompagner les personnes vers ce retour, on peut dire, à la vie ordinaire, dans un milieu ordinaire. Mmh. Donc, redevenir citoyen à part entière.
Et ça, c'est possible grâce aux 18 structures en Île-de-France.
Alors, on n'est pas les seuls, évidemment, à proposer des solutions sur l'Île-de-France. Mais bon, en tout cas, nous, on a effectivement 18 unités qui sont sur l'Île-de-France, où on accueille ces personnes pour aller vers le retour en milieu ordinaire. Alors, selon les situations des uns et des autres, on va avoir des réponses qui vont être adaptées aux uns et aux autres. L'idée, c'est vraiment d'avoir des parcours qui soient individualisés, selon justement la volonté de chacun, et puis la situation aussi dans laquelle on se trouve au moment M. Voilà. Donc c'est 18 unités, on peut avoir des unités qui sont avec de l'hospitalisation complète, mais on a aussi beaucoup d'unités où on a des séances, en ambulatoire, comme on dit, et des unités où finalement, même... on ne se voit que très peu, mais on peut se voir, on peut s'appeler, la personne peut nous appeler et finalement faire en sorte qu'on reprenne le lien, le contact au moment où elle l'a choisi, au moment où elle sent peut-être qu'il y a un moment dans sa vie où elle a besoin d'avoir de nouveau contact avec un professionnel pour pouvoir rebondir, repartir, continuer à aller vers. Donc on a vraiment une graduation, on peut dire, de l'offre de soins, d'accompagnement, en fonction des parcours qui sont vraiment très individualisés.
Ouais. J'essaie de comprendre, Olivier, l'évolution de notre société à l'égard du handicap psychique et mental. Alors, un peu par provocation ou question radicale et peut-être caricaturale en même temps, vous dites il y a des personnes qui n'ont plus de raison de rester dans une institution psychiatrique. Est-ce qu'on a vraiment des raisons d'y entrer ?
On peut avoir des raisons d'y rentrer quand on est dans une situation vraiment de crise, où on est dangereux pour soi-même. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on perd finalement toute notion de protection de soi, finalement. Et donc là, il peut y avoir un petit temps où on va reprendre un peu les choses et finalement protéger un peu, se protéger, se permettre la protection de cette personne dans un moment qui va être très pointu, très spécifique, lié à une crise. Mais finalement, une fois qu'on a passé cette période de crise, qu'on est de nouveau stabilisé, on n'a plus de raison finalement d'être à l'hôpital.
Les ailes déployées depuis 1959 avec une nouvelle orientation et un envol, évidemment, les ailes déployées c'était voulu depuis 2019. En Île-de-France, le site c'est LAD, les ailes déployées, LAD.fr. Merci Olivier Calais.
Merci à vous.
Un petit mot avant le jeu en Meurthe-et-Moselle, on y revient et je vous annonce avec une grande avance la reprise du Festival international du film de Nancy qui a été empêché par la crise sanitaire ces dernières années. C'est une bonne nouvelle pour les cinéphiles qui viennent se poser dans un transat de la cour de la manufacture pour découvrir des pépites du cinéma en version originale. Il dure une dizaine de jours pour des dizaines de séances et de rencontres et près de 150 films sélectionnés, une belle machine. Cette année, le festival aura lieu du 26 août au 4 septembre. Il y a un lien avec le festival à nos pages d'émission. Merci à Joël Levert, merci à Guillaume Roux à la technique, merci à Vincent Désir à la diffusion, Nicolas Stoufflet assisté de Yann Paillet, le jeu des 1000 euros à Essel et Nancy.